Alors belle soirée à vous à l'écoute d'Europe 1. Et tout de suite le journal, Marguerite Lefèvre.
Bonsoir à tous, à la une de l'actualité ce soir, ce revirement surprise du gouvernement. Cet après-midi, il annulait toutes les mesures annoncées en novembre, le chèque énergie notamment, mesure rétablie dans la soirée. Explication de cette marche arrière dès le début de ce journal. Autre marche arrière aujourd'hui, celle de Vinci Autoroutes. Face au tollé qu'elle a déclenché, la société renonce à faire payer les automobilistes qui avaient profité des péages gratuits mis en place par les Gilets jaunes. Ce mouvement de contestation qui dure depuis 5 semaines provoque de lourdes conséquences pour l'économie. Aujourd'hui, l'INSEE a abaissé sa prévision de croissance pour le dernier trimestre 2018. Également dans ce journal, les policiers qui menacent toujours de faire tourner leur service au ralenti demain. Les royalties de Johnny Hallyday en partie gelées. La justice a entendu les enfants du chanteur. Et puis les maths bientôt en option au bac. Le gouvernement pourrait les enlever du tronc commun. Il y a également du foot ce soir, 8e de finale de la Coupe de la Ligue. On joue depuis une heure, Orléans qui accueille le PSG. Julien Froment, où en est-on ?
Eh bien le Paris Saint-Germain mène 1-0 face à Orléans. But de Cavani marqué à la 40e minute de jeu.
Julien Froment, qu'on vous retrouvera en fin de journal, tout comme Elena Morna qui nous donnera la météo complète pour demain. La bourse, ce sera avec Didier Hameau de boursier.com et puis l'invité écho d'Emmanuel Duteil à 22h20. Ce soir, Jean-Sébastien Leridon, le directeur général de Relais Colis.
Europe 1.
L'annonce surprise est tombée vers 19h30 tout à l'heure. Communiqué de Matignon annonçant le plus simplement du monde que les mesures annulées dans l'après-midi étaient finalement rétablies. Les mesures, ce sont toutes les promesses du gouvernement aux gilets jaunes annoncées en novembre dernier. Maud Descamps, on a assisté cet après-midi à un invraisemblable cafouillage.
En effet, Marguerite, il y a d'abord eu vers 17h cette annonce de Matignon. Une partie des mesures censées compenser la hausse de la taxe sur le carburant sont annulées. Dans l'entourage du Premier ministre, on expliquait que tout cela était très logique. Comme la taxe sur le carburant a été supprimée, il n'y a aucune raison de maintenir les mesures qui devaient la compenser. Cette annonce a tout de suite fait vivement réagir dans les rangs de la majorité. Certains ont estimé que le timing n'était peut-être pas très opportun et que le coût politique d'une telle annonce pourrait être lourd comparé aux 130 millions d'économies réalisées. Et puis finalement, vers 19h, rétropédalage et les services du Premier ministre ont annoncé que l'annulation était elle-même annulée. Bref, c'est ce qu'on appelle un couac. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le chèque énergie sera bien étendu à 2 millions de foyers supplémentaires. Le barème des indemnités kilométriques va être revu à la hausse. Et enfin, la super prime à la conversion de 4 000 euros sera étendue aux indépendants et aux salariés qui roulent beaucoup et qui sont non imposables.
Les explications de Maud Descamps, revirement de Matignon, marche arrière également des sociétés d'autoroutes décriées depuis leur annonce hier, celle de faire payer les automobilistes qui avaient bénéficié des opérations péage gratuits mises en place par les Gilets jaunes. Ces sociétés d'autoroutes ont été reçues par la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Aurélien Fleureau, juste avant cette réunion, c'est Vinci qui a pris la parole et qui a annoncé qu'elle renonçait tout simplement à cette mesure.
Oui, c'est par le biais d'un communiqué intitulé « Mise au point » que le patron de Vinci, Pierre Coppet, a expliqué que cette procédure de recouvrement était purement et simplement annulée. Il reconnaît qu'elle n'a pas été assez bien expliquée et donc mal comprise. Une décision pas vraiment surprenante puisque le gouvernement avait clairement fait savoir qu'il n'appréciait pas la méthode au vu du contexte. Très incongru, avait dit le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux. Et puis, du côté du ministère des Transports, on s'interrogeait ouvertement sur la validité juridique d'une telle mesure. Elisabeth Borne, au Sénat cet après-midi, a demandé aux concessionnaires de ne pas appliquer cette mesure, notamment parce qu'ils ne peuvent pas utiliser les images de vidéoprotection pour récupérer les plaques d'immatriculation. En tout cas, pas dans ce cadre-là.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Pour les sociétés d'autoroute, ce mouvement des gilets jaunes coûte cher. Les dégâts sont nombreux partout en France. Hier soir, les manifestants ont même incendié un péage à Bandol, dans le Var, sur l'autoroute A50, cette voie qui relie Marseille à Toulon. 17 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Nathalie Chevance, les dégâts sur place sont impressionnants.
Oui, et toute la journée, les équipes de Vinci ont déblayé les gravats calcinés, les cabines incendiées, car c'est toute la structure, notamment le haut vent, qui a été fragilisée par l'incendie allumé en plusieurs points, vraisemblablement à l'aide de pneus et de palettes. Alors sur place, les gilets jaunes se sont repliés sur l'une des bretelles d'accès. Gabriel, mobilisé depuis le 17 novembre, était là hier soir. Il se désolidarise de ces actions violentes.
C'est des gens qui sont venus de l'extérieur, qui ont fait ça sur un péage. On ne peut pas être responsable et on ne peut pas être solidaire d'une action comme ça. Certainement pas. C'est des gens qui ont peut-être bu un verre de trop, mais nous nous opposons à ces gens-là qui sont en jaune à nos côtés. Nous allons les voir, nous allons les raisonner. Parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. En tout cas, on fait tout notre possible pour éviter ça.
Mais ce type de dégradation a forcément un impact pour l'image des gilets jaunes. Certains admettent d'ailleurs se faire insulter. Cécile, commerçante à Bandol, est excédée.
Le problème, c'est qu'ils n'ont pas compris qu'ils obtiendront rien en faisant ça, qu'on ne comprend pas. Ce matin, je n'ai pas pu mettre mon fils à l'école. J'ai mis 1h15 pour faire 6 km.
À cause du péage ?
Oui.
Donc qu'est-ce que vous avez à dire aux gilets jaunes ?
Qui se concentrent réellement sur les personnes concernées et pas sur les gens qui travaillent dur. On essaie de gagner nos vies comme on peut. C'est catastrophique.
Et jusqu'à nouvel ordre, cette portion d'autoroute sur la 50 à hauteur de Bandol reste fermée.
Nathalie Chevance, correspondante d'Europe 1 à Marseille. Des dégâts sur les routes, des centres commerciaux fermés. Le mouvement des gilets jaunes paralyse certains secteurs. Résultat, c'est la croissance qui en pâtit. L'INSEE a abaissé ce soir ses prévisions de croissance pour l'année 2018, plombées par ce dernier trimestre. Prévision rabaissé à 1,5%. Écoutez Julien Pouget de l'INSEE.
On s'attend pour la fin 2018 à une croissance qui se tasse sous l'effet notamment des mouvements sociaux en cours, sous l'effet également de la baisse du climat des affaires qu'on a observé de manière quasi continue depuis le début de cette année 2018. Pour le début de 2019, on s'attend à un rebond de la consommation notamment, sous l'effet du retour à la normale après les blocages et sous l'effet également du dynamisme du pouvoir d'achat que l'on anticipe pour le début de l'année prochaine.
Un dynamisme qui est dû aux annonces faites par le gouvernement ?
Effectivement, pour le début de l'année prochaine, nous prévoyons à nouveau une progression du pouvoir d'achat en lien avec les mesures de soutien qui ont été annoncées le 10 décembre.
Julien Pouget de l'INSEE, il répondait à Olivier Samin. Toute la soirée, les consultations se sont enchaînées à l'Élysée. Consultation des ministres et de plusieurs acteurs économiques pour aborder la question du grand débat voulu par Emmanuel Macron. Un grand débat national pour tenter de calmer la colère des gilets jaunes. Une première phase de ce débat se déroulera jusqu'à la mi-janvier. La seconde durera 2 mois au cours desquels les Français pourront s'exprimer. Consultation également à quelques centaines de mètres de l'Élysée, place Beauvau. Les policiers ont été reçus par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Ils menacent toujours de bloquer certains commissariats demain, et ce, malgré la prime de 300 euros promise par le gouvernement. Après 3 heures de négociations, la réunion a été suspendue ce soir. Elle reprendra demain. Écoutez Jean-Claude Delage du syndicat Alliance.
Nous sommes dans un schéma de négociation. Cette négociation, elle nous a conduit, comme ça a été dit, à faire des propositions. Ça a conduit le ministre à nous en faire de son côté. Nous ne sommes pas tombés d'accord. Donc pour le moment, nous sommes ni déçus ni satisfaits puisque les négociations continuent. Les arbitrages financiers sont nécessaires de son côté. Nous reviendrons donc demain tenter de conclure une négociation qui, je le dis, soit profitable à nos collègues sur la voie publique. Demain, c'est une journée de mobilisation à laquelle viennent s'associer l'unité SGPFO. Une journée de mobilisation avec réponse aux appels d'urgence et pour être très clair, le reste, ça attendra. Maintenant, ce que nous espérons évidemment, c'est obtenir des avancées suffisantes qui permettront à un moment ou à un autre, d'arrêter ces mobilisations.
Jean-Claude Delage du syndicat Alliance, il répondait à Guillaume Bier. Et pour être tout à fait complet sur cette actualité sociale, sachez que les patrons des assureurs et des mutuelles ont aussi été reçus aujourd'hui. Le chef de l'État a demandé aux complémentaires santé de réfléchir à un gel des cotisations l'an prochain. Ces groupes de complémentaires santé ont donc désormais 48 heures pour revenir vers le président avec une réponse. En bref, à l'étranger, le Premier ministre belge a annoncé ce soir sa démission. Charles Michel était sous la menace d'une motion de défiance portée par la gauche. Et puis aux États-Unis, la justice américaine reporte son verdict sur Michael Flynn, l'ex-conseiller de Donald Trump. Il avait admis avoir menti au FBI sur ses contacts avec la Russie. On apprend par ailleurs que la fondation de Donald Trump accepte de se dissoudre. L'organisation est assignée en justice, accusée d'avoir été utilisée par le président américain pour financer ses dépenses personnelles. La fondation sera donc dissoute, mais la procédure judiciaire n'est pas pour autant terminée. Un mot de politique et ses adieux tout à l'heure à l'Assemblée. Le député et ancien ministre Maurice Leroy a posé sa toute dernière question dans l'hémicycle. Après 3 septennats, le centriste a décidé de se retirer de la vie politique.
22h-22h30, le journal de la nuit avec Marguerite Lefèvre sur Europe 1.
Vous écoutez Europe 1, il est 22h10. On poursuit ce journal avec ce nouvel épisode aujourd'hui du feuilleton qui entoure la succession de Johnny Hallyday. La justice a décidé de geler une partie des revenus tirés des ventes d'albums du chanteur. 37,5% de ces revenus seront donc gelés en attente d'une nouvelle décision de justice. On va essayer de voir ça de manière un peu plus claire avec vous, Salomé Legrand. Bonsoir.
Bonsoir Marguerite, bonsoir à tous.
Alors cette décision, on peut dire que c'est une victoire des enfants de Johnny, même si au final ça ne changera pas grand-chose.
Absolument, victoire partielle des enfants, parce que c'est écrit dans la décision que j'ai pu consulter, il y a un risque de dommage imminent pour eux, risque qu'ils soient privés de leur part si, sur le fond, à terme, la justice estime que c'est le droit français qui s'applique. Du coup, les juges ont fait le calcul. En droit français, 25% reviennent au conjoint subsistant, en l'occurrence c'est Laetitia, et le reste est à diviser ici par 4 enfants. Ils n'ont donc gelé que les parts de David et Laura, soit 37,5% du total. Je vous rappelle que ce sont tous les revenus dus à Johnny sur son dernier album, mais aussi sur les nouvelles ventes de ses anciens albums, soit plusieurs millions d'euros qui sont en jeu. Mais vous l'avez dit, en vrai, ça ne change pas grand-chose pour deux raisons. D'abord, parce que les maisons de disques avaient déjà gelé ces fonds, c'est dans leurs habitudes pour tout le monde, en attendant un certificat d'hérédité. Et aussi parce que le vrai coup de théâtre, eh bien, c'était la démission du gérant américain du Trust, rebuté par toutes ces affaires judiciaires françaises. Et que tant qu'un nouveau trustee n'est pas nommé, eh bien, tout reste un peu en suspens.
Les explications de Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. L'ancien député Les Républicains Alain Marceau a été condamné aujourd'hui à un an de prison avec sursis, 300 000 euros d'amende et 3 ans d'inéligibilité, condamné pour avoir détourné des fonds publics. L'ancien député rémunérait sa fille en tant que collaboratrice parlementaire, un emploi jugé fictif. C'est une réforme qui inquiète déjà les parents et les professeurs. Réforme du lycée et du bac, les nouveaux programmes ont été présentés aujourd'hui à la communauté éducative. Une matière est au centre de toutes les attentions. Il s'agit des maths, car avec la nouvelle formule, elle pourrait devenir optionnelle, éjectée du tronc commun. En fait, Virginie Salmen, les maths, il faudra désormais en faire soit à fond, soit pas du tout.
Oui, c'est ça. À la fin de la classe de seconde, fini les mathématiques, sauf pour ceux qui choisissent maths comme spécialité, mais avec un niveau assez élevé, plus élevé que celui des filières S d'aujourd'hui. Donc ce sera tout ou rien, on peut le résumer comme ça. Alors il faut le dire, des élèves qui ne font plus de maths aujourd'hui, ça existe, hein, c'est le cas des filières littéraires par exemple. Ce qui est plus problématique selon les professeurs de maths, c'est pour les élèves qui choisissent l'équivalent par exemple de la filière sciences économiques et sociales, l'ancien bac B. Là, les maths sont nécessaires pour poursuivre dans le supérieur. Mais ces élèves-là, ils n'ont souvent pas le niveau pour cette nouvelle spécialité de maths. Même chose pour ceux qui veulent faire ensuite du commerce ou bien ceux qui veulent tout simplement devenir professeurs des écoles. Est-ce que eux, par exemple, peuvent vraiment se passer des mathématiques? Alors, outre la spécialité maths, il y aura aussi des options maths, mais seulement à partir de la terminale, pas en classe de première, ce qui veut dire que les élèves arrêteront les maths pendant un an et ils auront donc peut-être du mal à raccrocher les wagons ensuite. Alors, le ministre Jean-Michel Blanquer, lui, il a entendu évidemment cette alerte sur les maths. Le dialogue est ouvert, me dit-on au ministère, où on travaille actuellement sur les programmes de maths. Peut-être revoir un peu le niveau de cette spécialité. Voilà ce qui est en ce moment sur la table.
Virginie Salmen, spécialiste éducation d'Europe 1. L'industrie de l'hôtellerie signe une excellente année 2018. Le secteur dépasse les taux de fréquentation que l'on connaissait avant les attentats de 2015. Par ailleurs, plus on monte en gamme, plus cette fréquentation est en hausse. La page des sports à présent et du foot. Ce soir, premier huitième de finale de la Coupe de la Ligue. Orléans reçoit le PSG. Julien Froment, on vous retrouve en direct. Le PSG est toujours devant.
Exactement. 56 minutes de jeu au stade de la Source. C'est le Paris Saint-Germain qui mène 1-0 grâce à un but signé de l'attaquant uruguayen Edinson Cavani à la 40e minute de jeu sur un excellent ballon d'Andrel Di Maria, une équipe du PSG, on pourrait dire un peu au petit trot, qui s'est laissé un petit peu endormir par cette équipe d'Orléans première période, mais qui a su se montrer suffisamment efficace pour trouver la marque malgré un terrain assez difficile et la pluie qui s'abat depuis de nombreuses minutes du côté d'Orléans. Une équipe d'Orléans, justement, on le rappelle, 11e de Ligue 2, qui essaye de tenir face à cette équipe du PSG, qui s'est procuré des occasions, mais qui manque un petit peu de réalisme. À noter aussi, Marguerite, du côté des tribunes, les supporters du Paris Saint-Germain ont brandi une bonne rôle contre Adrien Rabiot. On le rappelle, hein, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain refuse de prolonger avec le club de la capitale. Eh bien, les supporters lui ont envoyé un message. Rabiot, casse-toi, on n'a pas besoin de toi. Voilà, le message est plutôt
clair.
Clair. 58 minutes de jeu et donc toujours 1-0 pour le PSG face à Orléans.
Julien Froment en direct d'Orléans. Il y avait de la Ligue 1 également ce soir, 18e journée. Et cette victoire au bout du suspense de Caen sur Toulouse, 2-1. Caen qui a fait basculer le match grâce à un pénalty dans les arrêts de jeu. Et puis toujours en foot, on a appris aujourd'hui le limogeage de José Mourinho, l'entraîneur de Manchester United. Limogeage avec effet immédiat. Le Portugais ne sera donc pas sur le bord de la pelouse lors du 8e de finale de la Ligue des Champions qui opposera le club britannique au PSG. On passe à la météo. Elena Morna, le ciel s'agite au-dessus de nos têtes.
Agitation qui vient de l'ouest, des pluies et du vent qui balayent le pays cette nuit et qui s'étendront demain sur les régions de l'est, entre la Lorraine, l'Alsace jusqu'en Provence. Alors les pluies seront soutenues dans la partie sud, les chutes de neige importantes également. Les Alpes seront concernées à partir de la mi-journée. Sur le reste du pays, eh bien, ce sera un ciel menaçant avec des averses, parfois orageuses, essentiellement sur les régions de l'ouest. D'ailleurs avec de bonnes rafales de vent sous les orages et localement du grésil. Alors c'est sur le littoral atlantique que le vent sera le plus vif, entre la Vendée, les îles Charentaises et le bassin d'Arcachon, avec des rafales à 90 km/h. Pas beau donc, mais doux. Peu de gelée demain matin, puis 5 degrés au moins à Belfort l'après-midi. 6 à Strasbourg et Annecy, 10 à Brest, Lille, Angers et Lyon, 11 à Nantes, Paris et Auxerre, 12 à Bordeaux, 13 à Toulouse et Bastia, 15 pour Marseille, 16 à Perpignan. Des températures qui vont monter d'un cran d'ici vendredi, jour du solstice d'hiver et pic de douceur de la semaine. Les passages pluvieux vont se maintenir jusqu'à samedi sur la plupart des régions. Dimanche et lundi, le sud devrait être épargné avec une ambiance très printanière entre le sud Aquitaine et les Alpes du Sud.
Merci, c'était la météo d'Elena Morda.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant. On fera le point sur la bourse avec Didier Hamon. Et puis juste après, Emmanuel Duteil reçoit le patron de Relais Colis et Jean-Sébastien Le Ridon. Ce sera l'interview écho. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Nuit, Marguerite Lefebvre.
Il est 22h17, vous écoutez Europe 1 et tout de suite on fait le point sur l'actu de la bourse avec Didier Hamon de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Marguerite.
Wall Street se stabilise en attendant le verdict de la Banque Centrale Américaine.
Après sa chute, Wall Street tente même de se reprendre un petit peu, ça va un peu mieux on va dire. Avant le verdict de la Réserve fédérale, ce sera pour demain soir. Le Dow Jones reprend 0,35%, une toute petite hausse, 23 676 points. Le Nasdaq plus 0,45%, 6 784 points. Et Donald Trump a continué de faire pression sur la Banque centrale américaine via son compte Twitter, comme toujours, pour que les taux d'intérêt ne remontent pas aux États-Unis, évoquant pêle-mêle un dollar fort, pas d'inflation, une économie chinoise qui ralentit et même Paris qui brûle. Trump a donc fait du Trump. En attendant, les anticipations économiques sont revues en baisse, en nette baisse des deux côtés de l'Atlantique. Ce qui fait encore chuter le baril de pétrole de 6% ce soir, 46 dollars. On est au plus bas depuis juillet 2017, c'est quand même une sorte de débandade, le pétrole. Et évidemment, tout le secteur en pâtit. Exxon chute de 2,8%, Royal Dutch moins 1,5%, Chevron moins 2,4%. En revanche, les valeurs de technologie reprennent un petit peu de hauteur. Apple plus 1,3%, Microsoft plus 1%, Amazon plus 2% et Intel plus 1,4%. L'euro est stable ce soir, 1,1360 face au dollar.
Un mot de la Bourse de Paris qui a encore perdu du terrain aujourd'hui.
Ça continue, presque 1% de perdu. Ça devrait aller un petit peu mieux demain, on espère en tout cas demain matin. Moins 0,95% pour l'instant à la clôture, 4 754 points, ce qui porte quand même à 10% le repli du marché parisien depuis le 1er janvier. La révision en forte baisse de la prévision de croissance de l'INSEE pour le quatrième trimestre, de 0,4 à 0,2, alimente la prudence des investisseurs. Et puis le pétrole, bien sûr, on a tout le secteur qui va à volo avec Vallourec, moins 5%, Technip, moins 3%, Total, moins 2,5%, CGG, moins 2,5% aussi, et Moral et Prom, moins 3,3%, dans le sillage de cette chute vertigineuse du baril de brut. Quelques gros dossiers accusent le coup aussi, comme Veolia, moins 1,9%, Accor, moins 4%, ou Saint-Gobain, moins 0,7%.
Alors il y a une exception, aujourd'hui c'est le titre Eurotunnel qui a remonté de 5%.
Oui, 5,5% exactement, 12 euros Eurotunnel, le groupe BTP Eiffage a profité de la faiblesse des cours pour prendre 5% du capital d'Eurotunnel. Eiffage entend être un investisseur de long terme et n'exclut pas poursuivre ses achats en bourse. Alors évidemment, ça s'agite beaucoup autour du titre Eurotunnel et ça risque encore de continuer. Le titre gagne 5,5% ce soir. Sur les autres places financières en Europe, le DAX, moins 0,3%, Bruxelles, moins 0,4%, Madrid, moins 1,2%, ça baisse partout, Milan, moins 0,2%, et donc le CAC 40 à Paris, moins 0,95%, 4 754 points.
Merci, c'était Didier Hamon de boursier.com. 22h20 sur Europe 1, l'heure comme tous les soirs de retrouver l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Ce soir, Emmanuel, vous recevez Jean-Sébastien Le Ridon, le directeur général de Relais Colis.
Bonsoir Jean-Sébastien Léridon, merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes directeur général de Relais Colis et bien évidemment un des grands de la livraison, notamment en ces périodes de fête. Première question, toute bête, il y a bien évidemment cette affaire des Gilets jaunes depuis maintenant plusieurs semaines. Est-ce qu'il y a un report vers le commerce électronique à cause de cette crise des Gilets jaunes ?
C'est très difficile à évaluer parce qu'on est de toute façon sur des périodes de très forte activité. Nous, on s'était organisé pour une croissance d'environ 15% et on a effectivement la croissance attendue. Maintenant, je pense qu'il y a quand même un petit peu de report dans la mesure où la consommation est quand même assez morose. Donc arriver à faire plus 15 effectivement dans l'environnement actuel, je pense que c'est déjà une performance en soi.
Mais si je résume ce que vous venez de dire et si j'ai bien compris, c'est-à-dire que vous attendiez à une forte progression du commerce électronique,
oui,
parce que c'est
comme
le cas
dernière, ouais,
depuis maintenant des années, ouais, et qu'il y a peut-être un petit delta qui n'est finalement pas si facilement quantifiable, voilà, à, ouais, cause des Gilets jaunes.
Moi, je saurais pas, enfin, j'aurais pas la prétention de le quantifier, mais je pense qu'il y a effectivement un peu de report. Ouais.
Mais si on n'est pas capable de le quantifier, si on n'est pas capable de le mesurer pour le moment, ça veut dire que les gens ont retardé leurs achats pour continuer à aller dans les commerces traditionnels, comme ce que demande par exemple encore la maire de Paris ce matin, de dire « allez faire vos courses dans le petit commerce », où certains attendent là peut-être en ce moment de voir que les routes sont bien débloquées.
Probablement. Là, on est mardi, donc j'ai déjà deux jours d'activité sur cette semaine. On constate une dernière semaine plus forte que l'an dernier. Et après, tout simplement, vous le savez, enfin, si on prend simplement l'environnement médiatique, les journaux commencent seulement maintenant à parler de Noël et des cadeaux et faire les...
Donc ça, vous pensez que ça joue pendant quelques temps à cause des médias ou à cause de cette crise
Gilets
jaunes
général,
on n'avait pas du tout l'impression d'être à Noël,
où les gens n'étaient pas dans Noël, et je pense que ça y est, on a basculé, ouais.
Est-ce que malgré tout, vous, Relais Colis, vous avez été obligé de vous organiser pour faire face à cette crise, puisque vos chauffeurs étaient bloqués de temps en temps, ouais. Est-ce que vous avez plus roulé du lundi au vendredi et vous n'avez pas du tout roulé les week-ends?
Déjà, c'est des périodes où on va faire vraiment 4 semaines d'activité extrêmement forte entre le Black Friday et Noël, qui nécessite de s'organiser énormément en amont. Donc nous, on commence dès le mois de juin à se caler. Et là, effectivement, avec les événements extérieurs, il a fallu renforcer le capacitif et travailler encore davantage les dimanches.
Renforcer la capacité, ça veut dire,
ouais,
quoi? Avoir plus de camions,
plus de camions
chauffeurs
et plus de marge de sécurité. Ouais.
Si on met de côté cette fois l'affaire des Gilets jaunes, ouais, jusqu'à quand je peux commander et être sûr d'être livré le 24 avant mon repas au soir?
Alors ça dépend des sites internet et des transporteurs.
Moi,
chez
je veux
vous,
être sûr.
Voilà.
Hein.
Sur la majorité des sites, il vaut mieux prendre une petite marge parce qu'il y a... Il n'y a entre guillemets que 97% des colis qui arrivent à l'heure, enfin en tout cas dans notre organisation. Donc si vous voulez être tranquille, vaut mieux commander jusqu'à mercredi. Ouais.
Jusqu'à mercredi, donc jusqu'à demain. Voilà. Il nous reste maintenant quelques heures pour, ouais, commander. Alors
voilà,
les auditeurs, attendez encore quelques minutes pour, voilà, cette interview, puis vous vous y mettez après. En revanche, on a eu plusieurs sons de cloche, notamment Victor Delande qui fera une grosse enquête demain matin sur Europe 1 là-dessus, qui nous disait que les commerçants chez qui on va récupérer nos colis sont cette année beaucoup plus que d'habitude totalement submergé de colis. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on met plus de temps à venir les chercher ou que les 15% de progression dont vous nous parlez, ça submerge les commerçants qui ne sont pas adaptés pour ça?
Alors, moi, si je prends les données quantitatives, on était sur la période, si je prends la région parisienne, à une quarantaine de colis par relais par jour, on est sur les mêmes métriques cette année. Donc,
pourtant, on a eu, Victor a fait de nombreux, ouais, commerçants et on a eu de nombreux retours de commerçants qui disent cette année, on est totalement submergé.
Alors c'est peut-être lié à des délais de retrait ou à des volumes de colis aussi qui sont.
Mais c'est pas
plus
une information qui vous est remontée particulièrement.
Enfin, voilà, nous on est très vigilants à ça. Après, effectivement, on demande à nos commerçants d'accepter deux fois plus d'activités qu'en temps normal. Donc c'est difficile. C'est pour ça qu'on en ouvre davantage. C'est pour ça qu'on prépare et c'est pour ça qu'on fait en sorte aussi que les gens viennent les chercher plus vite. Mais on n'a pas de dérive. Après, il faut quand même rappeler que effectivement cette année, dans les relais colis et ceux de nos confrères, il y aura entre 15 et 20% de colis en plus que l'an dernier. Donc c'est un challenge.
Alors vous disiez, on a dû s'organiser, on a dû s'adapter, oui, à tout ça. Vous avez aussi bénéficié d'une meilleure organisation, parce que c'est capital dans la logistique. Vous avez réorganisé plusieurs de vos centres logistiques.
Oui,
logistiques.
Nous, de toute façon, on avait fait ce constat de cette croissance avec des phénomènes d'à-coups de plus en plus forts il y a maintenant 4 ans. Et donc on avait lancé un plan de transformation pour y répondre. Avec à date, là, on a investi plus de 25 millions d'euros dans des grosses plateformes mécanisées qui nous permettent de traiter plus de colis plus vite, et dans nos solutions informatiques aussi qui permettent de mieux gérer le flux. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment fondamental si on veut pouvoir absorber cette croissance sur des périodes de plus en plus courtes.
Mais si j'en reviens à ces commerçants dont on parlait que certains pouvaient être un petit peu submergés, quand vous étiez venu l'année dernière, quasiment à la même date, vous nous disiez on va trouver peut-être d'autres solutions avec des bornes peut-être automatiques dans les gares ou ce genre de choses. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas aller beaucoup plus vite en raison de cette progression totalement folle du commerce électronique? Quand on parle d'une progression de 15%, je ne connais quasiment aucun secteur économique en France, là, cette année, qui va avoir une progression de 15%.
Alors effectivement, ça passe par de l'innovation. Sur ces trois dernières années, la principale réponse qu'on a trouvée les uns les autres, ça a été d'utiliser des partenariats aussi avec des réseaux de grands magasins et de grandes distributions, qui représentent à date à peu près 15% de nos relais, parce qu'ils avaient besoin de faire revenir les clients de l'Internet chez eux. Après, on teste des choses avec la RATP sur des centres de services qui
servent... Vous en êtes content parce que maintenant, vous avez une grosse année de recul sur tout ça.
Oui, on en est très content. Enfin, y en a encore peu, parce qu'il y en a trois à date, mais qui arrivent à traiter plus de 100 colis jour.
Mais ça, c'est des solutions, demain, d'avoir beaucoup plus de centres avec des codes dans des gares.
Il y a la consigne. La consigne, c'est ce qui a le moins bien pris.
Ah oui.
J'en ai pas plus que l'an dernier, quand je vous avais vu. On en avait une cinquantaine à date, et on en a toujours une cinquantaine. On a peu d'appétence encore, donc on le fait là où on est contraint parce que ça nous coûte quand même plus cher. Et voilà, et on voit pas les consommateurs basculer. Ce qui marche vraiment le mieux, ce sont des centres de services avec de l'humain, mais bien entendu avec de l'amplitude horaire. Ça, c'est clé.
Alors, on pose depuis quelques jours la même question à chacun de nos invités qui passent à ce micro. C'est pas la plus facile des questions, mais vous me dites 15% de progression. Moi, je serais vos collaborateurs, vos syndicats. J'irais, est-ce que je vais avoir une prime exceptionnelle défiscalisée?
Alors, on a deux mi-temps chez Relais Colis, une mi-temps de 11 mois et une mi-temps d'un mois. Et c'est là-dessus qu'on joue le résultat. Donc, si la deuxième mi-temps le permet, oui.
Donc, pour le moment, on est plutôt positif. On
est dans le rush time, enfin dans le money time. On termine notre année. Il nous reste encore une semaine pour mettre tous les cadeaux sous le sapin. Et voilà. Et après, on fera les comptes.
Bon, et ben je vous dis à l'année prochaine.
À l'année prochaine, avec plaisir, Emmanuel.
Merci beaucoup, Jean-Sébastien Léridon, le directeur général de Relais Colis, était notre invité ce soir sur Europe 1. Et si vous voulez en savoir plus justement sur ce secteur des jouets et le business de la livraison des colis, soyez au rendez-vous demain de La France Bouge. C'est bien évidemment à 13h avec Raphaël Duchemin et tous ses invités. À demain pour nous, 22h20.
À demain, Emmanuel Dutheil. Et bien sûr, une adresse si vous voulez retrouver cette interview dans son intégralité, rendez-vous sur europe1.fr. On part tout de suite à Orléans, vous retrouvez Julien Froment. Égalisation chez vous.
Exactement, 70 minutes de jeu et donc un partout, but signé Lopi pour Orléans. Le match est totalement relancé, on le rappelle, il n'y a pas de prolongation, c'est directement les tirs au but en cas de match nul dans cette rencontre, un partout entre Orléans et le PSG après 71 minutes de jeu.
Match relancé, on va suivre ça avec vous. Restez avec nous dans un instant, on épluche les unes de vos quotidiens de demain. A tout de suite. À la une de vos quotidiens demain, les policiers en colère. Ils font la une du quotidien 20 minutes. Policiers surmenés qui devraient manifester jeudi pour dénoncer leurs conditions de travail et le manque de moyens. Eux aussi ont crié leur colère il y a quelques semaines. Ils sont désormais appelés à la rescousse par Emmanuel Macron. Les maires premiers de cordée, nous dit Libération. Un temps délaissés, ils restent très populaires et ont été appelés par le chef de l'État pour porter le débat national dont les contours, il faut le dire, sont encore assez flous. Les Échos, optimistes dans vos kiosques demain. Le pouvoir d'achat va nettement augmenter l'an prochain, explique le quotidien économique. La hausse de ce pouvoir d'achat atteindra 3% sur un an à partir du début de l'année prochaine, selon l'INSEE. L'inflation, toujours très faible, et les mesures prises par Emmanuel Macron jouent favorablement. Mais la croissance devrait freiner, nous disent les Échos. Voilà pour votre presse de demain. On termine cette tranche d'infos de nouveau en retournant à Orléans, 8e de finale de la Coupe de la Ligue Orléans-PSG. Julien Froment, ce match complètement relancé, vous nous le disiez.
Oui, l'impensable s'est produit. Je dois bien vous avouer, Marguerite, qu'on ne voyait pas vraiment en tribune de presse. Voilà, Orléans revenir dans la partie parce que, après l'ouverture du score du Paris Saint-Germain à la 40e minute de jeu par l'intermédiaire d'Edinson Cavani, eh bien, Paris avait vraisemblablement fait le plus dur. Et puis Orléans s'est mis à y croire et sur une perte de balle, on va dire, anodine du Paris Saint-Germain, eh bien, c'est le milieu de terrain Joseph Lopi qui a tenté sa chance des 25 mètres. Gianluigi Buffon, le gardien du PSG, qui avait remplacé eh bien, Alphonse Areola à la mi-temps, n'a rien pu faire sur cette frappe limpide qui est donc allée tromper le portier parisien. Et voilà comment les deux équipes se retrouvent à 10 minutes de la fin du match, à égalité, un but partout, on le rappelle, hein, pas de prolongation en Coupe de la Ligue, c'est directement les tirs au but en cas de match nul. Et là, les tirs au but, eh bien, c'est la loterie et Orléans peut s'y mettre peut se mettre à y croire plutôt. Orléans, on le rappelle, hein, seulement 11e de Ligue 2 et qui pour le moment eh bien, tient tête tout simplement au Paris Saint-Germain, invaincu sur la scène nationale cette saison. Un partout entre les deux équipes, donc après 79 minutes de jeu.
Merci Julien Froment, on vous retrouve à 23h pour suivre évidemment ce 8e de finale. Pour l'heure, il est 22h31. Europe Nuit, c'est terminé, passez une excellente soirée. Tout de suite, c'est la libre antenne de Sophie Peters. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Marguerite.
Un numéro comme toujours pour vous joindre, le 3921 jusqu'à 1h du matin.
Absolument, on vous retrouve dans quelques minutes pour les informations.
À tout à l'heure.